Boa noite, senhores deputados. Começo por dar as boas-vindas ao senhor Michel Barnier, negociador-chefe da Comissão Europeia para o Brexit, e a equipa que o acompanha, o Christian Krapitz, membro da Task Force para o Artigo 50, Dimitrio Segnana, não veio, Sofia Colares Alves, que claro é a nossa chefe da representação da Comissão Europeia. Houve aqui um lapso, foi indicada a Eugénia Dimitrio, mas não tenho o nome do segundo elemento da comitiva, que depois saberei e cumprimentarei nominalmente. Agradeço ao Sr. Michel Barnier este esforço de estar connosco. Tivemos duas vezes agendamento para esta audição, que tivemos por variadíssimas questões de agenda, que é uma agenda complicada de conciliar com o nosso Parlamento. Tivemos a sorte de hoje conseguirmos, apesar das vicissitudes também desta marcação de hoje, que teve que ser antecipada por causa da atividade partidária do Partido Socialista. Por isso agradeço muito ao Michel Barnier a sua presença hoje aqui para nos falar sobre o processo negocial do Brexit. Vamos ser muito pragmáticos nesta nossa audição, uma vez que o senhor Michel Barnier está a chegar depois de um dia de trabalho e terá outras atividades amanhã. Vamos fazer uma única ronda de 25 minutos, em princípio, com tolerância para o Sr. Michel Barnier para uma intervenção inicial, com 5 minutos com tolerância também para cada um dos grupos parlamentares, do Sr. Michel Barnier, e ficamos pela esta primeira ronda. Sendo assim, soyez le bienvenu, Michel Barnier, vous avez la parole.
Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, d'abord en remerciant l'interprète que je ne vois pas, mais qui me permet de me faire comprendre dans ma langue maternelle, je vous présente mes excuses personnelles. Ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude d'être ponctuel, sauf que je ne pouvais pas arriver à Lisbonne avant l'avion, hein. Et nous avons attendu avec mon équipe pendant 4 heures que l'avion décolle. Donc je vous prie de m'excuser, et je suis très impressionné qu'ici, à Lisbonne, les députés puissent être aussi nombreux pour une audition le soir comme cela. Enfin, moi, j'ai été député et sénateur français pendant 20 ans. On avait quelquefois des débats nocturnes ou des auditions nocturnes, mais c'était très très rare. Donc je suis d'autant plus touché et je vous remercie beaucoup de votre présence. Néanmoins, je suis très heureux, Regina, et en vous saluant chacune et chacun, notamment les anciens ministres avec lesquels j'ai travaillé, de pouvoir m'exprimer devant votre Parlement national comme je le fais dans chacune des capitales, parce que vous êtes le lieu de la vie démocratique du Portugal, parce que vous êtes concerné comme élu par cette négociation et parce que, je le redirai, votre Parlement devra se prononcer non pas sur le premier traité du Brexit, du divorce, que je suis en train de négocier en votre nom, mais sur tous les autres traités où le prochain futur grand traité, je ne sais pas encore quelle sera la forme juridique, traduiront la future relation avec le Royaume-Uni, ce traité-là seront des traités mixtes, contrairement au Brexit. Ce sont des traités qui vont exiger la ratification des 27 parlements nationaux par unanimité, y inclus peut-être dans certains pays des parlements régionaux. Et je pense qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour que les parlements nationaux soient informés et tous les éléments pour pouvoir se prononcer dans leur souveraineté et en toute connaissance de cause. Voilà pourquoi j'ai décidé d'aller dans tous les parlements nationaux et je suis finalement très content qu'on ait pu trouver même tardivement cette occasion. Nous sommes à un moment clé de la négociation, une négociation extrêmement complexe, extraordinaire, ou je pourrais dire extraordinairement complexe, que j'ai l'honneur de conduire du côté de l'Union européenne, dans le double souci de l'unité des 27 pays. Et cette unité ne tombe pas du ciel, nous devons la construire, les 27 dirigeants européens, notamment votre Premier ministre que je rencontrerai demain, qui joue un rôle important au Conseil européen, le Parlement européen, qui devra se prononcer sur ce traité, et puis cette unité, elle est absolument essentielle, mais elle ne se décrète pas. Nous la construisons tous les jours par une deuxième méthode qui est celle de la transparence. Et donc nous avons pour la première fois dans une telle négociation européenne décidé de pratiquer la transparence la plus totale à l'égard des citoyens et évidemment tout d'abord à l'égard des élus du Parlement européen et des représentants des gouvernements. Cette négociation, elle ne peut pas être secrète. Elle ne doit pas être secrète, elle exige un débat public et c'est pour ça que je suis aussi content de vous rencontrer. Juste peut-être pour introduire mon propos, quelques mots du contexte géopolitique dans lequel nous nous situons. Et je le dis dans un pays, et ici à Lisbonne, qui a un lien politique, culturel, de solidarité avec le Royaume-Uni que je connais, et qui remonte à votre alliance en matière de défense avec l'Angleterre dans le cadre du traité de Windsor. Il y a donc une longue tradition de solidarité entre le Portugal et le Royaume-Uni, et nous la respectons. J'ai aussi les chiffres de vos exportations. 5% de vos exportations du Portugal en marchandises vont vers le Royaume-Uni. J'ai aussi le chiffre de vos exportations vers le reste de l'Union européenne, c'est 72%, près de 15 fois plus. Ma conviction, comme homme politique, et vous l'avez bien compris, moi je ne suis pas un super technocrate bruxellois, je suis un homme politique et je reste un homme politique, c'est que nous devons être évidemment dans le monde d'aujourd'hui européens en plus d'être portugais. Européen en plus d'être français ou espagnol ou allemand. Je dis bien en plus, pas à la place. Et je voudrais essayer de démontrer pourquoi notre intérêt national dans chacun de nos pays passe par la consolidation d'un projet collectif. Ça, c'est un tableau qui a été présenté il y a 4 ans, quand j'étais commissaire au marché intérieur, par M. Cameron, à l'époque Premier ministre du Royaume-Uni. Et il voulait démontrer dans une brochure le soutien qu'il apportait à ce que je faisais pour le marché intérieur. Certains se souviennent très bien de la présidente très en bien. Particulier qui était à la commission du marché intérieur au Parlement. Et il voulait démontrer l'importance du marché unique pour l'ensemble des Européens, et notamment pour les Britanniques. Et ce tableau montre qu'en 2010, à cette époque, il y avait 4 pays seulement de l'Europe dans le top 10. Et puis tous les 10 ans, au rythme normal ou prévisible de l'évolution du développement de chacun des pays de l'Union européenne, mais aussi des autres régions du monde, mesdames et messieurs les députés, dans ce monde d'aujourd'hui, que vous connaissez aussi bien que moi, parfois, on nous espère encore, mais plus personne ne nous attend. Hein, plus personne. Ni les Chinois, ni les Américains, on le voit bien en ce moment, ni les Russes. Donc, ce que nous ne faisons pas pour l'Europe, nous, Européens, c'est pas les autres qui vont venir le faire pour nous. Hein, personne. Et donc, tous les 10 ans, vous avez un des 4 pays qui est éjecté. Et en 2050, selon ce tableau, l'Allemagne est 9e et il n'y a plus un seul pays européen dans le G8. Moi, je n'ai pas envie que ce tableau devienne une réalité. Et c'est pour ça que le marché unique, qui n'interdit pas l'identité nationale pour chaque pays, contrairement à ce qu'on raconte ici ou là, mais qui donne une force commune et qui provoque un respect commun des autres partenaires, ce marché unique, en portugais, vous dites « où c'est où, mercado hein ?» il est notre principale capitale et notre principale à tout. Et j'ai utilisé les chiffres de M. Cameron pour faire un deuxième tableau, que je vais vous montrer maintenant, si nous restons à 27 ou si nous sommes seuls. Voilà, ça c'est la réalité prévisible sur la même période jusqu'en 2050 de l'Union à 27 qui reste deuxième, troisième, quatrième. Nous reculons, il faut faire attention, mais du Royaume-Uni qui lui seul sort du tableau. Voilà. C'est juste le contexte géopolitique dans lequel se situe cette décision que nous regrettons, mais que nous respectons, des Britanniques, de quitter l'Union européenne. Ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de valeur ajoutée au Brexit. Personne, jusqu'à maintenant, n'a été capable de me démontrer, de nous démontrer la valeur ajoutée. C'est une décision que nous regrettons, mais que nous respectons. Et nous pensons, nous, au nom de l'Union, qu'il vaut mieux être resté solidaire plutôt que de devenir solitaire dans le monde d'aujourd'hui. Voilà ce que je pense. Et ce tableau le démontre. Voilà, j'en viens maintenant à la négociation pour vous montrer l'état de l'agenda de cette négociation, peut-être qui se déroule en fait avec deux démarches parallèles depuis le mois de mars dernier, le dernier Conseil européen qui a eu lieu fin mars, où il m'a été demandé de finaliser, je voudrais le traiter, de finaliser le traité du Brexit, c'est-à-dire le traité sur ce qu'on appelle en anglais « orderly withdrawal », j'espère un retrait ordonné, et de commencer, c'est ce qu'il a en vert, la discussion avec les Britanniques sur la base d'un mandat très clair qui m'a été fixé par le Conseil des chefs d'État et par le Parlement européen, la discussion sur la future relation. Mais vous devez bien mesurer que le préalable pour intensifier la négociation sur la future relation, le futur partenariat que nous voulons construire avec le Royaume-Uni, c'est d'abord qu'on finalise le traité du Brexit, c'est-à-dire la partie en jaune. Où en sommes-nous ? Qu'on la finalise avant le mois d'octobre ou le mois de novembre qui vient, donc dans quelques mois seulement. Cette négociation, je l'ai commencée il y a moins de 11 mois, et maintenant nous avons moins de 10 mois pour la terminer, parce que il nous faut conserver le temps de la ratification. 3 ou 4 mois en bleu, après la signature du traité, ratification de notre côté par le Parlement européen, par le Conseil des ministres et ratification, évidemment, par le Parlement britannique. Avant le mois de février, le 30 mars, les Britanniques sortent des institutions européennes. En octobre, nous devons signer ce traité, je ne peux pas dire à quelques semaines près, hein, j'espère en octobre, mais nous devrons aussi mettre sur la table, votre table, la table des dirigeants européens, un projet de déclaration politique qui décrira précisément le cadre de la future relation. Les dirigeants européens m'ont demandé de préciser clairement ce qui va se passer après. Ils ne veulent pas être surpris. Ils veulent savoir ce qui se prépare pour la suite. Et donc, nous allons décrire, j'espère avec les Britanniques, ensemble, le cadre de cette déclaration politique. Nous allons décrire la future relation. Voilà le calendrier qui est extrêmement serré. On dit souvent en anglais « the clock is ticking », mais je le dis avec beaucoup de préoccupation parce que je trouve que le temps passe vite et qu'il nous reste encore beaucoup de travail. Où en sommes-nous ? Il y a 6 semaines, j'ai avec mon équipe mis sur la table des dirigeants européens un projet de traité. 168 articles, 2 protocoles. C'est ce traité qui est public, vous pouvez... si vous voulez, le prochain week-end, le consulter, hein, j'ai un peu de temps. Et dans ce traité, il y a tout. Tous les sujets de la séparation. Pas de la future relation, de la séparation, qui est le préalable. Organiser la séparation, solder les comptes pour pouvoir bâtir ensuite, ce qui est le plus intéressant et le plus important, une future relation ambitieuse avec le Royaume-Uni. Et dans ce texte, Avec les Britanniques, avec la délégation britannique, nous avons beaucoup travaillé juste avant le Conseil européen, 3 jours et 2 nuits, pour colorier en vert, c'est pas seulement du coloriage, tout ce sur quoi nous sommes d'accord. Et ce sont des sujets importants, y compris, et d'abord pour le Portugal, pour les citoyens portugais. Le premier chapitre sur lequel nous sommes mis d'accord dès le mois de décembre et que nous avons traduit en termes juridiques dans ce texte, ce sont les droits des citoyens. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai remettre ces slides, si vous voulez, à chacun. Hein. Ne vous inquiétez pas. Tous les droits des citoyens. Nous parlons de 4,5 millions de personnes, parmi lesquelles au moins 3,5 millions de citoyens de l'Union, et sans doute parmi eux, le chiffre n'est pas tout à fait précis, mais 400 000 citoyens portugais qui vivent, travaillent au Royaume-Uni et qui participent à l'économie britannique. Et puis de l'autre côté, 1,5 million de citoyens britanniques qui vivent, travaillent, aussi beaucoup de retraités dans l'un ou l'autre, notamment au Portugal ou en Espagne ou en Italie, qui vivent et travaillent ou sont retraités dans l'un des pays de l'Union. La première ligne, c'est que nous sommes d'accord aujourd'hui avec les Britanniques pour garantir tous les droits de ces citoyens, de résidence, de protection sociale, d'allocation familiale, de portabilité de pension, pour eux-mêmes, pour leur famille et pour la durée de leur vie. Tous les droits qui auront été acquis par des citoyens qui sont déjà là, au Royaume-Uni pour les Portugais ou au Portugal pour les Britanniques, ou ceux qui vont arriver, qui vont faire le choix de vie, de venir de l'un côté ou de l'autre, avant la fin de l'année 2020. Deuxième sujet sur lequel nous sommes mis d'accord, c'est le règlement financier. C'est un sujet très difficile. Il n'y avait pas de punition. Il n'y aura jamais dans mon état d'esprit l'idée d'une punition ou d'une revanche à l'égard des Britanniques. Jamais. J'ai simplement demandé au nom de l'Union que l'on solde les comptes sur une base objective. Pourquoi ? Parce que tous les pays européens, dont le vôtre, se mettent d'accord tous les 7 ans, 2014 jusqu'à 2020, 2021 jusqu'à 2027, pour établir un accord sur les politiques européennes que nous menons ensemble et le budget qui accompagne ces politiques. Et nous décidons de tout ensemble de manière mutualisée. Et chaque Parlement national ratifie cet accord budgétaire pour 7 ans. Et puis, on annonce ça aux agriculteurs, on annonce ça aux collectivités territoriales, aux communes, on annonce ça aux régions ultra-périphériques comme les Açores, et les gens engagent des projets pour 7 ans. Et les Britanniques, dans ce paquet financier, payent à peu près 14% de tout. Et donc, nous avons simplement demandé que ce qui a été décidé à 28 au début de la période soit payé à 28 pour toute la période. Et c'est ça qui a été agréé avec le gouvernement britannique. Le troisième point, c'est une demande de Theresa May d'une transition consistant à maintenir le Royaume-Uni dans le marché unique, dans l'union douanière, dans les politiques européennes, au-delà du Brexit, au-delà du jour du Brexit, et pendant une période limitée. Et nous nous sommes mis d'accord. Là encore, c'est le troisième grand point d'agrément pour une période de transition qui maintiendra le statu quo socio-économique après le départ des Britanniques des institutions. Ils ne seront plus à la table du Conseil des ministres, ils ne seront plus au Parlement, ils ne seront plus à la Commission, jusqu'à la fin de la période budgétaire 2014-2020, jusqu'au 31 décembre 2020. Et nous avons calqué, collé la garantie des droits des citoyens sur cette même période. Voilà. Et puis, il y a d'autres sujets sur lesquels nous avons commencé à nous mettre d'accord, qui ne sont pas négligeables, mais sur lesquels nous n'avons pas encore trouvé un accord. Ça a été l'objet de cette négociation qui s'est faite toute cette semaine, encore aujourd'hui, hier, avant-hier, avec les Britanniques. Nous avons des rounds de négociations, une semaine sur 2, 3 ou 4, enfin ça dépend du rythme. Et nous travaillons pour continuer à colorier en vert le texte. Nous avons par exemple bien progressé sur Euratom, nous avons bien progressé sur les questions douanières liées au Brexit, à la séparation, mais nous avons encore, nous avons bien progressé sur la protection des marques industrielles, mais nous n'avons pas encore d'accord sur des sujets importants, par exemple, qui intéressent le Portugal, l'agriculture portugaise, notamment la protection des indications géographiques. Toutes les appellations d'origine contrôlée agricole. Et je ne parle pas seulement du whisky écossais, je parle aussi des produits agricoles ou agroalimentaires qui sont dans la tradition de votre pays. Mesdames et messieurs, chère Madame la Présidente, il y reste deux points très importants et très graves de désaccord qui sont en blanc. Et sur ces deux points, nous devons trouver un accord entre maintenant et le mois d'octobre si nous voulons un accord. Parce que ces deux points sont absolument essentiels. Le premier, c'est celui de la gouvernance de l'accord. Nous ne parlons pas d'un discours, nous ne parlons pas d'une déclaration politique, nous parlons d'un traité qui doit avoir une certitude, donner une certitude juridique aux citoyens, aux entreprises, aux consommateurs, aux collectivités locales. Et donc nous avons besoin de ce qu'on appelle en anglais d'un « dispute settlement », d'une structure de gestion des conflits potentiels dans la gestion de l'accord. Et nous, évidemment, puisque beaucoup de ces points, sinon la totalité, sont accrochés ou dépendent du droit européen, nous souhaitons que la Cour européenne de justice tienne son rôle et joue sa place dans cette gouvernance. Et là, nous avons un point de désaccord majeur avec les Britanniques. Et le second point de désaccord, c'est l'Irlande. L'Irlande est un des 27 pays de l'Union. Je suis donc aussi le négociateur de l'Irlande. Et nous avons là un problème extrêmement singulier, unique, sur lequel les 27 ont marqué leur solidarité ensemble aux côtés de l'Irlande. On a une carte de l'Irlande ou pas? Non. Vous avez dans l'île d'Irlande deux pays. La République d'Irlande, Dublin et une partie du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord. Je ne reviens pas sur conflits extrêmement tragiques entre les communautés, notamment en Irlande du Nord, entre catholiques et protestants. Mais ces conflits ne sont pas très lointains, une vingtaine d'années. Et grâce au courage politique d'hommes d'État, catholiques et protestants, au soutien du gouvernement britannique, au soutien du président américain à l'époque, et aussi l'engagement de l'Union européenne, la paix a été établie, le dialogue a été rétabli. Ce qu'on appelle le Good Friday Agreement, c'est un accord qui consacre cette stabilité. Et au terme de cet accord, il n'y a plus de frontières entre ces deux pays. Aucune frontière. Vous êtes ici en République d'Irlande, vous avez une pièce ou un champ, vous traversez la pièce ou le champ, vous êtes au Royaume-Uni. Très bien. Très bien, aussi longtemps que les deux pays sont dans l'Union et aussi longtemps que les deux pays sont dans le même marché, dans la même union douanière. Mais le jour où l'Irlande du Nord sort du marché unique et sort de l'union douanière et sort de l'union, nous avons un problème parce que nous avons l'obligation, pour protéger les consommateurs, pour protéger les entreprises, de contrôler tous les produits qui rentrent et qui sortent du marché unique. C'est ce qui se passe avec les douanes portugaises qui contrôlent les produits qui sortent du Portugal, qui sortent du marché unique européen et qui vont à l'extérieur et en contrôlent les produits qui rentrent au Portugal pour rentrer dans l'ensemble de l'Europe. Nous parlons des contrôles des règles d'origine, des standards, de la sécurité alimentaire, des normes que nous avons en commun et qui expliquent que ces produits peuvent circuler à l'intérieur du marché unique sans contrôle. Mais il y a les contrôles aux frontières. Donc nous devons effectuer ces contrôles et nous ne pouvons pas le faire en construisant ou reconstruisant une frontière. Parce que ça serait un trop grand risque politique. Voilà la difficulté. Et nous sommes tous engagés, y compris le gouvernement de Theresa May, à garantir que le Good Friday Agreement sera respecté dans toutes ses dimensions et qu'on ne reconstruira pas de frontières en Irlande. Néanmoins, nous devons aussi faire respecter l'intégrité du marché intérieur et les règles. Et voilà pourquoi, en attendant une autre solution, nous avons proposé dans ce document, c'est une des parties en blanc, d'intégrer de manière exceptionnelle l'Irlande du Nord dans notre union douanière l'espace réglementaire nécessaire du marché unique. Ce qui veut dire, un, que l'Irlande du Nord restera dans notre territoire douanier, dans l'hypothèse de notre proposition, et que d'autre part, il y aura un alignement réglementaire en Irlande du Nord avec l'acquis de l'Union en matière de libre circulation des biens et des produits agricoles. C'est ce qu'on appelle un backstop, une solution minimale que nous voulons en toute hypothèse trouver dans l'accord de retrait. Et si nous n'avons pas une telle solution, il n'y aura pas d'accord de retrait. Et nous avons bien expliqué cela aux Britanniques. D'ailleurs, Theresa May a reconnu que cette solution du backstop et tous les sujets identifiés dans notre protocole devraient se trouver dans l'accord de retrait. Nous sommes prêts à examiner toute autre solution que pourra proposer le Royaume-Uni et qui permet d'adresser, de trouver une solution pour ces deux aspects sur les douanes et l'alignement réglementaire. Nous entendons que du côté de Londres, on travaille aussi à l'idée d'une union douanière ou d'une forme d'union douanière. Je veux rappeler que l'union douanière règle une partie des problèmes en Irlande, mais ne règle pas tous les problèmes, notamment ceux de l'alignement réglementaire. Et donc, il faudra à nouveau des contrôles, puisque la plupart des contrôles à nos frontières relèvent du marché intérieur et non pas des questions de douane. Voilà. Nous disons clairement que cette solution doit être spécifique à l'Irlande, parce que nous avons une solution unique, et nous n'accepterons pas qu'on utilise le cas irlandais pour essayer de trouver je ne sais quelle solution qui consisterait à faire, on dit en anglais, du cherry picking, du marché intérieur à la carte, comme certains Britanniques l'imaginent. Donc nous attendons et nous sommes constructifs et ouverts pour trouver une solution. La nôtre, elle peut être amendée, ou une autre solution que proposerait le gouvernement britannique. Voilà. Ces deux sujets, mesdames et messieurs les députés, sont extrêmement graves et je recommande que personne ne les sous-estime. Cela me conduit aussi à dire que si ce que je ne souhaite pas, nous avons un échec sur un de ces deux sujets, il faudra être prêt à toutes les hypothèses, et notamment celles où il n'y ait pas d'accord. Je rappelle aussi que tout ce qui est dans ce traité n'aura de certitude juridique que le jour où le traité sera ratifié par l'Europe et par le Royaume-Uni. On dit en anglais « Nothing is agreed until everything is agreed ». C'est exactement le point que je veux rappeler. Mais ces deux sujets de gouvernance et d'Irlande sont absolument essentiels. Si nous arrivons, comme je le souhaite, à un accord, alors nous intensifierons la discussion et très vite après les négociations officielles sur la future relation, qui est encore une fois le plus important. Et je voudrais juste, à travers cette slide, vous montrer comment peuvent s'organiser les discussions, l'architecture de la future relation. Évidemment, le 29 mars 2019, le Royaume-Uni devient un État tiers. Nous devons, pour autant, avoir l'ambition d'une relation très forte avec le Royaume-Uni, pas seulement pour faire du commerce, mais évidemment pour faire du commerce, comme nous avons déjà à l'intérieur du marché unique. Voilà pourquoi nous imaginons quatre piliers pour cette négociation. Un pilier commercial, à travers un Free Trade Agreement, y inclut une négociation sur la pêche. Un deuxième pilier qui concernera des accords spécifiques, en vert, toujours, le deuxième pilier au milieu, que nous devons avoir avec le Royaume-Uni, parce que en quittant l'Union européenne, il quitte 750 accords internationaux, mécaniquement, 750 accords internationaux, tous les accords commerciaux, tous les accords sur l'aviation, la pêche, et nous devons rétablir des relations, par exemple en matière d'aviation. Ils quittent le ciel unique et nous devons renégocier un accord opérationnel immédiatement pour que les avions portugais puissent atterrir à Londres et que les avions britanniques puissent atterrir ici au Portugal. Troisième pilier, évidemment, la question de la sécurité intérieure, avec des sujets liés au mandat d'arrêt, à Europol, à la coopération judiciaire et policière. Le quatrième pilier est extrêmement important. Je faisais allusion tout à l'heure à votre vieille alliance en matière de défense. Le Royaume-Uni quitte l'Union, il quitte le Conseil des ministres, nous en prenons acte, mais pour autant, il reste un pays extrêmement puissant, avec une diplomatie très active, un siège au Conseil de sécurité, un rôle, nous le voyons bien, très actif dans les opérations extérieures. Et donc nous devons bâtir avec le Royaume-Uni un partenariat stratégique en matière de sécurité et de défense pour garantir la sécurité et la stabilité du continent européen. C'est dans ce cadre-là, par exemple, que nous devons trouver un accord avec les Britanniques pour un partenariat sur le sujet de Galileo. Galileo est un sujet où il y a pas mal d'articles et des polémiques. Moi, je suis extrêmement calme sur cette question. Nous avons avec Galileo une des conséquences du Brexit. Ce sont les Britanniques qui décident de quitter Galileo. En quittant l'Union, ils quittent Galileo. C'est mécanique. C'est automatique, malheureusement. Et nous devons trouver avec eux l'occasion de bâtir un nouveau partenariat. Je vois des polémiques ou des attaques contre l'Union européenne, ça ne m'impressionnera pas. Nous continuons à répéter que, en quittant l'Union européenne, les Britanniques quittent Galileo, et pour autant, on peut trouver un partenariat sur ce système qui est un système de souveraineté européenne en matière de géolocalisation, dans tous les domaines de Galileo, pour que les Britanniques puissent utiliser Galileo. On va trouver cette solution. Y compris l'utilisation du signal le plus protégé en matière de défense, qui s'appelle le PRS, puisque actuellement nous négocions avec les Américains ou avec les Norvégiens pour qu'ils puissent utiliser ce signal sécurisé. En revanche, ce qui ne sera plus possible, mais c'est une conséquence mécanique du Brexit, c'est que les Britanniques, en tant que pays tiers, participent au développement industriel ou technologique de ce signal. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir tous les éléments de notre souveraineté, se trouver à l'extérieur et ne pas respecter l'écosystème juridique et notamment le rôle de la Cour de justice. D'autres termes, si je le dis autrement, les Britanniques veulent retrouver leur souveraineté. Nous respectons cette volonté. Ils doivent respecter la nôtre. C'est aussi simple que ça. Ils doivent respecter ce que nous sommes. Voilà. Nous avons deux moments de vérité, mesdames et messieurs les députés, qui vont arriver sur cette relation. C'est un, que les Britanniques acceptent de reconnaître les conséquences de la décision qu'ils ont prise de quitter l'Union, de quitter le marché unique et de quitter l'Union douanière. Ils doivent assumer ces conséquences. Et ce sont beaucoup de conséquences juridiques, mécaniques, économique, et c'est leur responsabilité de les assumer. La deuxième moment de vérité, il est lié à ce que nous sommes, nous, Européens, ce que nous avons voulu être avec eux pendant les 44 années où nous avons été ensemble, en bâtissant un écosystème réglementaire de droits, d'obligations, de règles, parfois un peu trop de règles dans certains domaines, c'est ce que pensent les citoyens, ils ont parfois raison de penser qu'il y a trop de règles détaillées, mais néanmoins, ces règles constituent un écosystème commun pour les 28 pays de l'Union. Derrière ces règles, il n'y a pas seulement des lois, des textes, du droit, il y a aussi des choix de société. En matière alimentaire, il y a des choix de société dans nos règles de sécurité alimentaire. En matière de régulation financière, en matière de protection des données personnelles, en matière d'économie sociale de marché. Nous avons, à travers cet écosystème réglementaire que les Britanniques veulent quitter, nous avons fait des choix de société. Et la question qui consistera à un moment de vérité, c'est est-ce que les Britanniques qui veulent quitter l'Union européenne veulent aussi s'éloigner de ce modèle de société et de ces choix de société? Est-ce qu'ils veulent s'éloigner aussi de notre modèle réglementaire? Peut-être pour, comme le disent certains, créer de la concurrence réglementaire ou du dumping. Ce point est extrêmement important, notamment pour vous en tant que Parlement national, parce que vous allez avoir à ratifier ces traités. Et vous allez être vigilant, je suis sûr, moi j'ai été député aussi, sur le fait de savoir si, dans le futur partenariat avec les Britanniques, il y a un risque de dumping social, économique, fiscal, environnemental ou sur les droits des consommateurs, de la part d'un pays qui sera juste à côté. Nous devons donc trouver, c'est ce que j'ai mis là en noir, entre les deux premiers piliers économiques, level playing field. Nous devons trouver un accord avec les Britanniques, non seulement dans notre intérêt, mais dans le leur aussi, pour assurer une règle du jeu et éviter le risque de dumping. Voilà. Je dis cela en prévoyant ce qui peut se passer dans la future négociation et le processus de ratification. Voilà. Je voudrais juste revenir sur le premier pilier économique dont on parle beaucoup et vous montrer une slide qui est devenue célèbre, il n'y a pas de droit d'auteur, qui montre les différents modèles sous la forme de cet escalier, puisque nous allons du modèle le plus intégré, et mesdames et messieurs les députés, la meilleure relation avec l'Union européenne restera, je vous le promets, d'être membre de l'Union. C'est la première marche. Tout autre modèle ne présente pas les mêmes avantages et les mêmes opportunités. Et là, on va du modèle le plus intégré, être membre de l'Union, au moins intégré. Et le second best, le deuxième marche, c'est le modèle norvégien, qu'on appelle le modèle de l'espace économique européen. Ce sont trois pays qui ont choisi, qui ne sont pas dans l'Union, comme les Britanniques ne seront plus dans l'Union, mais qui ont choisi d'être dans le marché intérieur. C'est leur choix. Il n'y a pas un marché norvégien avec lequel nous coopérons. Le marché norvégien est membre du marché unique, est partie du marché unique européen, avec toutes les règles qui s'appliquent. Et ils participent budgétairement. Et ils acceptent les quatre libertés qui ne sont pas divisibles. Voilà. Et puis vous avez d'autres modèles. En dessous de chaque marche, j'ai mis les lignes rouges britanniques. C'est-à-dire ceux qu'ils ne veulent plus. Puisqu'ils quittent l'Union, ils ne veulent plus respecter le rôle de la Cour de justice. Ils ne veulent plus participer au budget. Ils ne veulent plus de la liberté de circulation des personnes. Ils ne veulent plus le cadre réglementaire européen. Ils ne veulent plus non plus, c'est l'avant-dernière marche, ils ne veulent plus de politique commerciale commune. Ils veulent retrouver leur souveraineté commerciale. Nous respectons ces choix qui ont été confirmés encore récemment par le gouvernement britannique. Nous sortons de l'Union, ils sortent du marché unique, ils sortent de l'Union douanière. Mais du coup, ils ferment les portes aux différents modèles. Eux-mêmes, ils ferment les portes jusqu'à la dernière porte qui est ouverte aujourd'hui, qui est le modèle du Free Trade Agreement que nous avons signé avec le Canada, récemment finalisé avec le Japon ou plus récemment encore, enfin, quelque temps, avec la Corée du Sud. C'est-à-dire un accord commercial qui permet sur les marchandises, en particulier, d'avoir zéro tarif, mais qui n'empêche pas les contrôles. Le seul modèle sans friction, sans contrôle, dans une relation avec un pays tiers, ce serait le modèle Norway plus. Le modèle norvégien, être membre du marché unique, plus une union douanière. Et ces modèles sont disponibles. Tous ces modèles sont disponibles. Mais chacun de ces modèles, il a son équilibre de droits et d'obligations. On ne peut pas accepter le cherry picking. Et donc, nous disons aux Britanniques, c'est vous qui choisissez. pour être tout à fait un peu plus précis, vous avez vu dans le débat britannique un débat très vif sur l'union douanière. Ça, c'est l'avant-dernière marche où se trouve la Turquie. C'est sur cette marche-là que se trouve actuellement le parti du Labour, de M. Corbyn. C'est là que se trouve la Chambre des Lords. C'est là que se trouve une grande partie du business community britannique qui demande une union douanière. On pourrait même imaginer une union douanière plus ambitieuse que celle que nous avons avec la Turquie. On pourrait y intégrer tous les marchés, tous les produits agricoles ou agroalimentaires. Voilà. Tous ces modèles sont disponibles. Ce qui veut dire que les Britanniques ont descendu les marches eux-mêmes, ils peuvent très bien les remonter. Mais c'est leur choix de nous dire ce qu'ils veulent et de respecter ce que nous sommes. Parce qu'encore une fois, ce qui n'est pas négociable pour nous, ce sont les quatre libertés du marché intérieur, notamment la liberté de circulation des personnes, l'intégrité du marché intérieur, cet écosystème réglementaire avec une juridiction qui garantit une règle du jeu à l'intérieur de l'Union, et ce qui n'est pas non plus négociable, c'est notre autonomie de décision. Voilà comment se présentent les choses. Je vous demande pardon d'avoir été un peu long, mais vous avez là tous les éléments de l'actualité de cette négociation très difficile, et puis de la perspective, que j'espère prochaine, d'ouvrir une discussion sur la future relation avec le Royaume-Uni. Voilà. Merci de votre attention.
Je vous remercie pour cette exposition très détaillée. Merci beaucoup. Agora vamos ter a ronda única com perguntas de cada dos senhores deputados e com respostas imediatas. Tem agora a palavra o senhor deputado Carlos Gonçalves e a senhora deputada Rubina Berardo. Com a tolerância que se impõe haver apenas uma ronda.
J'ai pas de traduction. Hein.
Vous n'avez pas.
Ça, c'est bon, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, antes de mais, saudar o Sr. Negociador-Chefe. No início da sua intervenção, referiu a questão da hora e emitiu um elogio também ao Parlamento Português, mas a questão do elogio é mútuo, também relativamente à sua disponibilidade também a esta hora de reunir com o Parlamento Português, e referiu também no início que a questão da negociação centralizada na sua figura seria uma unidade não decretada e que seria necessária a questão da transparência na negociação e a sua presença cá hoje também sublinha precisamente essa necessidade de transparência e de discussão também com os parlamentos nacionais sobre esta temática tão delicada num processo tão inédito que é o Brexit, e permitir também evidentemente saber o ponto de situação das negociações nestas diferentes variáveis que foram explanadas no início nesta sua intervenção. Relativamente às idiosincrasias do relacionamento entre o Reino Unido e Portugal, o próprio senhor negociador-chefe já referiu bastantes dessas idiosincrasias relativamente à ligação histórica, à relação entre os povos, a comunidade portuguesa no Reino Unido e, ao contrário também, do Reino Unido que vive em Portugal, que será depois um tema também que o meu colega deputado Carlos Gonçalves irá aprofundar também, e a própria relação económica que também foi sublinhada pelo senhor negociador-chefe. O Reino Unido efetivamente é o quarto destino das exportações portuguesas, é o primeiro emissor de turistas para Portugal, o primeiro cliente de Portugal a nível de serviços e também em termos de investimento direto. O Reino Unido também é o quarto país de origem também. Ou seja, também em termos de preocupações para o que é que nos avizinha agora nestes tempos de incerteza futura sobre as diferentes fases também pós-negociações e depois também pós-Brexit e também a própria relação futura entre a União Europeia e o Reino Unido, uma das preocupações para o PSD é precisamente a vertente também, a vulnerabilidade da própria economia nacional portuguesa face a essas consequências, tendo em conta essa incerteza desses timings. E algo que também preocupa o PSD é a própria ausência de um estudo de impacto económico relativo às especificidades da economia portuguesa, de forma a conseguir preparar de forma melhor as empresas portuguesas também para a mudança no horizonte. A preparar as empresas para esses diferentes cenários possíveis. O próprio PSD também foi aprovado no ano passado neste Parlamento um pedido para uma realização desse estudo detalhado sobre o impacto económico em Portugal, mas o governo português ainda não realizou isso, e isso é uma preocupação que continuamos a ter. Partilhamos igualmente a preocupação da Sra. Bania também, que referiu relativamente ao próprio risco também do dumping decorrente desse cenário extremo de concorrência a nível regulamentar também. E gostaria de perguntar também relativamente mais concreto à questão de segurança e defesa e a política externa, porque realmente dentro de um contexto internacional e até as tensões nas relações transatlânticas têm sublinhado até que a ligação entre o próprio Reino Unido e a União Europeia, que estamos na mesma página em tantas matérias e iremos continuar a estar na mesma página. Até a própria reação quase uníssona relativamente à solidariedade também com o Reino Unido no pós-Skripal também demonstrou isso, alguns países mais do que outros, mas demonstrou também solidariedade. E referiu a questão da parceria estratégica e também falou sobre a questão do Galileu e que realmente essa parceria estratégica só pode ser feita com uma partilha de informação. Portanto, partilhamos também da necessidade que o Sr. Negociador-Chefe referiu relativamente àquela, às vezes, tentação do cherry-picking relativamente ao programa do Galileu, mas é realmente necessário continuar depois com um novo processo de partilha de informação também dentro desse aspecto. E, por fim, perguntava relativamente à sua opinião também sobre o novo governo italiano e as possíveis consequências também para as negociações em torno dessa unidade não decretada, como referiu o Sr. Barnier, relativamente ao posicionamento da União Europeia e quais seriam as possíveis consequências do novo governo italiano e a nova postura do governo italiano também nesta matéria. Eu gostaria agora de passar a palavra ao meu colega deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Negociador-chefe Michel Barnier. Vou ser muito breve. Já fez referência a uma questão que para nós é muito cara, que tem a ver com os cidadãos portugueses que vivem no Reino Unido e a necessidade de salvaguardar os direitos destes cidadãos e dos cidadãos europeus que vivem no Reino Unido. Houve algumas garantias que foram dadas, teve a oportunidade de o fazer, mas continua a haver muita indefinição, muitas incertezas, até porque os níveis de integração da nossa comunidade são muito diferenciados. Temos uma comunidade de há 30 anos, comunidade de há 15, comunidade recente, e algumas que até vão chegar durante o período transitório. E não é só a comunidade portuguesa, há outras comunidades, como a francesa e outros, continuam a ter muita incerteza em relação ao futuro e, portanto, quais as garantias relativamente ao futuro destes cidadãos, independentemente de algumas comunicações que vão no sentido de todas as garantias estarem estabilizadas, o que não, para já, ainda não serenou, digamos, as pessoas. Dentro destes, das pessoas que residem no Reino Unido, temos aquilo que nós chamamos o mundo académico, nas universidades. Nós temos 24 mil professores e investigadores europeus no Reino Unido. O modelo económico das universidades britânicas, neste momento, estão em jogo face àquilo que era a presença de europeus. Nós temos muitos alunos portugueses e muitos investigadores a viver naquele país e temos o seguinte: temem a questão das bolsas, temem o aumento dos preços de inscrição que se podem tornar incomportáveis e temem também porque vão necessitar certamente, no fim dos seus estudos e a sua investigação, de poderem continuar a viver no Reino Unido para exercer uma atividade profissional. E esta é uma questão realmente muito importante e que convinha saber, porque estes estudantes inserem o número total de imigrantes, mas têm uma realidade muito diferente. E terminaria em francês: pour amontou, vous remercier votre disponibilité de citar, hoje eu ia ver que não é preciso haver aqui honor de décalage.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ruína Berardo. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o negociador-chefe para a resposta.
Madame Ruína Berardo, D'abord, ne me remerciez pas ni l'un ni l'autre d'être là tardivement. J'aurais été très heureux d'arriver plus tôt. et je... Ou les orages, ou je ne sais pas, mais je suis de toute façon... C'est pour moi très important d'être disponible pour les parlements nationaux. Hein. Et pas seulement parce que j'ai été très longtemps un député national français, mais parce que je pense que votre rôle est absolument clé dans le débat public sur le Brexit. Donc nous continuerons la transparence. Vous évoquez la vulnérabilité, Madame Berardo, de l'économie portugaise. Il y a des impacts, évidemment. Nous avons vu, à travers les flux économiques, les pays qui risquent d'être le plus impactés, c'est évidemment l'Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, certaines professions aussi, hein, ou certains secteurs. Mais évidemment, tous les pays qui échangent avec le Royaume-Uni peuvent avoir cette vulnérabilité. Et néanmoins, quand on regarde les flux d'échanges, vous devez aussi regarder les flux du Portugal vers le reste des 26 autres pays de l'Union, qui, eux, vont continuer ou se développer. Donc nous allons essayer de trouver un accord avec les Britanniques pour préserver ces flux d'échanges, notamment sur les produits agricoles, dont d'ailleurs les consommateurs britanniques ont besoin, notamment tous les produits frais. Mais ça dépendra aussi de ce qu'ils sont prêts à accepter comme règle, parce que nous ne pourrons pas négocier ou compromettre sur les règles du marché intérieur et les questions que j'évoquais tout à l'heure. J'évoquerai avec le Premier ministre demain, comme je le fais dans chacun des pays, la question de la préparation que vous avez évoquée, hein, est extrêmement importante. La préparation au Brexit dans le cadre d'un retrait ordonné, que je souhaite, auquel nous travaillons, mais qui n'est pas encore acquis, et la préparation aussi des services portugais, des entreprises portugaises, à une option que je ne souhaite pas, qui est celle du no deal, hein, d'un échec. Nous avons d'ailleurs, à la Commission européenne, sous l'autorité du secrétaire général de la Commission, un travail qui se fait et qui va s'amplifier avec les États membres sur ce qu'on appelle un contingency planning, c'est-à-dire une préparation de cette hypothèse que nous ne souhaitons pas, mais à laquelle nous devons être prêts. Et il est extrêmement important, je me permettrai de le dire au Premier ministre, que les services portugais, les services des douanes et d'autres services se préparent et que les acteurs économiques soient préparés. D'ailleurs, j'indique pour votre information que dans le cadre de cette préparation au niveau à Bruxelles, nous avons déjà publié, la Commission européenne a publié une soixantaine de notices pour tous les secteurs qui sont publics, hein, de notices qui sont sur notre site et que tout que vous pouvez, si des gens sont inquiets, recommander de lire ou d'étudier pour se préparer dans tous les domaines. Madame Berardo a rappelé également l'importance de la sécurité et de la défense. C'est un sujet d'ailleurs, personnellement, vous le savez, j'ai été ministre des Affaires étrangères de la France. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de défense lorsque j'étais d'ailleurs commissaire européen et que j'étais à l'époque commissaire européen chargé de suivre les questions institutionnelles avec un commissaire portugais très compétent en matière constitutionnelle ou institutionnelle. Et nous étions tous les deux membres du présidium de la Convention. Et je présidais à cette époque le groupe de travail sur la défense. C'est dans ce groupe que nous avons imaginé la coopération structurée en matière de défense qui se met en place. Avec Antonio Vitorino, nous avons beaucoup travaillé pour pousser cette idée aussi d'un nouveau rôle pour le haut représentant de la politique étrangère, d'une clause de solidarité. Nous avons voulu renforcer le rôle de l'agence de défense. Et tout ça se met en place, notamment sur la base des propositions récentes de la haute représentante et du président Juncker. Et pour la première fois aussi, la création d'un fonds d'investissement en matière de défense qui va permettre d'utiliser le budget de l'Union européenne pour la première fois depuis 60 ans pour financer de la recherche stratégique et des investissements en matière de défense. Je pense qu'il est logique que nous trouvions, avec le Royaume-Uni devenu pays tiers, la possibilité d'un partenariat sur ces sujets. Voilà, je pense ça. Mais ce partenariat, en toute hypothèse, il s'ajoute, Madame Erardo, il s'ajoute à ce que nous faisons bilatéralement entre le Portugal et le Royaume-Uni, ou entre la France et le Royaume-Uni, qui va continuer, il n'y a aucune raison. Le Brexit ne change pas ça. Et aussi ce que nous faisons dans le cadre de l'OTAN. Ça ne change pas non plus. Ce qui est en cause, c'est le fait que le Royaume-Uni sort de l'Union, sort du Conseil des ministres, sort du processus, parce que c'est son choix, du processus de décision à 28, et qu'il faut donc trouver, avec un nouveau pays tiers important comme le Royaume-Uni, l'occasion d'un dialogue politique sur les questions des sanctions, sur le travail que nous faisons ensemble aux Nations Unies et sur des opérations éventuellement extérieures auxquelles les pays tiers peuvent participer. Donc tout cela est en discussion. Nous commençons à y travailler. Nous avons fait des propositions. Mais évidemment, le Royaume-Uni ne sera plus autour de la table pour décider puisqu'il ne sera plus membre de l'Union européenne. Mais nous pouvons coopérer avec lui et trouver le cadre de dialogue politique intense avec le Royaume-Uni. Voilà ce que je peux dire télégraphiquement à ces différentes questions. Et je voulais vous dire aussi à chacune et à chacun que la task force que j'anime, c'est une soixantaine de personnes, qui est votre task force aussi, hein, celle du Portugal, est à votre disposition si vous avez des questions précises. Nous répondons à tout le monde. Tous les citoyens, par centaines qui nous écrivent, reçoivent des réponses. Et évidemment, les parlementaires nationaux qui auraient des questions spécifiques, si vous avez dans votre circonscription des entreprises qui posent des questions, vous pouvez nous les relayer et nous répondrons. Alors, sur les citoyens, M. Gonçalves, évidemment, il y a des incertitudes. Malgré le fait que tout le chapitre sur les citoyens a été agréé avec les Britanniques. Tous. Plusieurs dizaines d'articles que je vous invite à relire. Il y a une incertitude aussi longtemps que le traité ne sera pas ratifié. Ce qui donne de la certitude juridique pour les citoyens, c'est la ratification du traité. Mais j'ai bon espoir que nous y parviendrons. Ce que je veux dire sur le fond, c'est que sur tous les droits des citoyens, nous avons trouvé un accord avec les Britanniques, réciproque. Évidemment, il y a un point qui intéresse les 400 000 citoyens portugais qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, parmi lesquels beaucoup d'étudiants aussi, c'est cette question de l'enregistrement que les Britanniques veulent imposer pour tous les citoyens devenus étrangers. Et nous avons insisté, le Parlement européen a insisté, les ministres ont insisté pour que les procédures d'enregistrement soient simples, qu'elles ne soient pas coûteuses, et qu'elle soit proportionnée. Mais tous les citoyens portugais au Royaume-Uni vont devoir s'enregistrer. Je répète que les droits des citoyens ont été garantis, jusqu'à la fin de la période de transition. Donc, si un citoyen portugais ou un jeune fait le choix d'aller vivre au Royaume-Uni entre maintenant et la fin 2020, il commence à accumuler des droits qui seront garantis. C'est une autre question, M. Gonçalves, c'est une autre question, ce qui va se passer après le 1er janvier 2021. Le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers, la période de transition sera terminée, les droits acquis seront préservés, mais je ne connais pas la politique d'immigration du Royaume-Uni à ce moment-là, la nouvelle politique d'immigration. Nous en discuterons avec eux dans le cadre de la future relation. Et je vais être très vigilant sur un point, c'est que nous n'accepterons pas la discrimination entre les pays de l'Europe par les Britanniques. Nous voulons préserver une homogénéité, une cohérence de droit en matière d'immigration. Vous avez évoqué, à propos des étudiants et des chercheurs, deux sujets auxquels je suis attentif. Sont des sujets liés à l'avenir, qui concernent les universités, la coopération des universités, j'ajouterai la recherche, et j'ajouterai Erasmus. Sur tous ces sujets, nous n'aurons pas besoin de négociations extraordinaires avec les Britanniques, puisque c'est la première ligne en bleu foncé. Nous avons, sur les sujets que je viens de citer, que vous avez vous-même cités, nous aurons des outils de coopération avec les pays tiers, déjà, qui vont être actualisés. Par exemple, pour la recherche, la Commission européenne va présenter une actualisation de ses programmes pour les pays tiers, et nous utiliserons évidemment ces outils-là pour bâtir un maintien de la coopération avec les Britanniques pour le programme des universités, sur Erasmus ou sur la recherche. Mais évidemment, M. Gonzalez, ça ne pourra pas être dans le même cadre financier et réglementaire qu'aujourd'hui. Hein. Ça sera dans un cadre nouveau, pour un pays tiers. Hein. Voilà. C'est une des conséquences du Brexit. Mais ça, c'est prévu, vous voyez, c'est marqué « EU legal basis for third country ». In EU programs. C'est EU programs, c'est clairement la coopération recherche, la coopération entre universités ou Erasmus. Hein. Voilà. Voilà, exactement. Et à la lumière, évidemment, la présidente me le rappelle, c'est la dernière toute petite ligne en blanc, en noir, en dessous, à la lumière des décisions qui seront prises dans le cadre du nouveau programme des perspectives financières 2021-2026. Hein. 27. Grosse discussão entre nós.
Muito obrigada. Tem agora a palavra o Partido Socialista, a senhora deputada Margarida Marques e o senhor deputado Paulo Pisco.
Muito obrigada, Presidente. Comissário, permite-me que o trate assim. Gostaria de agradecer a sua presença aqui e, sobretudo, agradecer o engagement. Não encontro uma palavra portuguesa que diga exatamente, tenha uma tradução tão perfeita, o seu engagement neste processo de negociação. E uma das questões que eu gostaria de lhe colocar sobre o processo de negociação tem a ver exatamente com a questão da unidade. Ou seja, efetivamente, até aqui, os países da União Europeia têm mostrado unidade no processo de negociação. Uma preocupação que nós temos, e já foi referida aqui, é o futuro governo da Itália. Está o governo da Itália interessado, disponível, em integrar-se neste processo de negociação como os restantes, como estava o governo anterior e como estão os restantes Estados-membros. Tenho acompanhado alguma literatura e algumas declarações sobre esta matéria e, de facto, tanto quanto percebi, há já alguma iniciativa do lado do Reino Unido no sentido de contactar os futuros dirigentes de Itália para que possam ter alguma negociação direta bilateral. Uma segunda questão que gostaria de colocar tem a ver com o seguinte: do lado da União Europeia, nós sentimos que há uma posição única por parte dos líderes europeus que têm dado suporte à sua ação e à sua negociação. E penso que se sente confortável com esse apoio político por parte dos líderes europeus. Portanto, podemos dizer que a União Europeia fala a um discurso único. Mas vemos do outro lado, do lado do Reino Unido, vemos, por exemplo, se acompanharmos o debate há dois dias no Parlamento Britânico sobre a questão da política alfandegária e da participação da União Europeia do Reino Unido na política alfandegária, houve de facto um grande confronto no Parlamento, não entre o Labour e os conservadores, mas dentro dos conservadores. E, portanto, há aqui, efetivamente, um problema de posição única do lado do Reino Unido. E o Sr. Barnier disse há pouco, referiu há pouco, o dumping em vários aspectos. É interessante se nós olharmos, por exemplo, para as críticas do Secretário de Estado do Ambiente britânico ao Sr. Hammond, em que, dizia ele, Hammond ajuda a destruir as credenciais em matéria de ambiente dos conservadores. E estou a citar. Portanto, há aqui, em matéria de direito ambiental e de questões ambientais, de facto, uma preocupação relativamente à possibilidade de se manterem os standards ou de, haver uma modificação dos standards. Um outro ponto que eu gostaria de colocar, que tem a ver ainda com a situação no Reino Unido, tem a ver com a evolução da economia. E as declarações recentes do governador do Banco Central Britânico, em que ele diz claramente que a saída, e disse-o também há dois ou três dias, que em maio de 2016 o GDP britânico era superior a 1% àquele que será em maio de 2019, no que resulta do Brexit, não em geral, mas no que resulta da saída do Reino Unido da União Europeia. Uma outra questão que gostaria de lhe colocar tem a ver com a necessidade de o Reino Unido procurar a sua, digamos, identidade no novo quadro mundial que se vai criar com a saída do Reino Unido da União Europeia, e tem a ver exatamente também com declarações de Hamon, do ministro Hamon, em que defende um grande investimento no digital para que o Reino Unido se mantenha competitivo depois do Brexit. Portanto, nós aqui também podemos identificar quais são as preocupações que existem do lado do Reino Unido. Questões concretas que gostaria de lhe colocar. A primeira, acesso ao Galileu. E, efetivamente, já se pronunciou sobre isto, mas há aqui, por um lado, um interesse mútuo. Digamos que na negociação é algo que a União Europeia pode dar ao Reino Unido, mas também é algo em que a União Europeia terá que se proteger relativamente à União Europeia no seu todo, na sua relação com países terceiros. Uma outra questão que também o Sr. Barnier já teve a ocasião de se pronunciar sobre ela, mas que eu gostaria de voltar a colocá-la, que é a questão da Irlanda. E, efetivamente, a União Europeia diz sempre que a situação de paz é a situação de paz que nós pretendemos manter. O que é facto é que os quatro partidos da Irlanda do Norte querem manter-se no mercado único e na União Aduaneira, evitando a fronteira. E eu gostaria de saber até onde é que a União Europeia está disposta a ir nesta matéria, nesta negociação, sabendo que existe uma linha vermelha do lado da União Europeia, que é manter a situação de paz nas duas Irlandas. Cimeira de Sibiu. Gostaria de saber quais são as expectativas do Comissário para esta Cimeira de Sibiu que o Sr. Juncker quer fazer no dia a seguir à saída do Reino Unido da União Europeia. Uma outra questão prende-se com o facto de a União Europeia ter iniciado, ou neste momento a Comissão Europeia ter luz verde do Conselho Europeu para iniciar as negociações com a Nova Zelândia e com a Austrália. E gostaria, não sei se será a pessoa mais apropriada para responder esta questão, talvez se ainda estivesse no seu estatuto de comissário, estivesse numa posição mais apropriada para responder à minha questão, mas gostava de ter o seu comentário sobre se o início das negociações com países da Commonwealth significa que nós estamos a tentar, que nós, União Europeia, estamos a tentar estabelecer diretamente negociações comerciais com esses países, na medida em que o Reino Unido está disposto ou quer sair dos acordos comerciais que até agora assinava. E, portanto, perceber se efetivamente há aqui uma estratégia específica nesta matéria. Nós já tivemos oportunidade de discutir isto noutros momentos, mas gostaria de lhe referir relativamente à estratégia do governo português sobre o pós-Brexit. Eu penso que está a par de algumas das iniciativas, das estruturas da unidade de missão que o governo propôs, criou, melhor dito, mas terá com certeza amanhã com o Primeiro-Ministro uma resposta sobre esta matéria. Para terminar, gostaria que nos fizesse o estado da arte sobre o nível de aceitação do Reino Unido relativamente ao papel do Tribunal de Justiça da União Europeia. Percebemos que a governance é ainda uma área que não está, onde há ainda, digamos, muito a discutir, mas gostaria de saber quais foram as evoluções que o Reino Unido teve relativamente ao reconhecimento do papel do Tribunal de Justiça da União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Michel Barnier. Eu também tinha algumas questões muito diretas relativamente aos cidadãos comunitários e muito particularmente porque nos interessa o destino dos cidadãos portugueses no pós-Brexit, porque para nós é uma questão também essencial. Tem-se falado muito na garantia dos direitos até ao fim do período de transição. Mas o que não se fala, o que não se sabe, e o Sr. Barnier também o disse, é aquilo que vai acontecer depois. E aquilo que vai acontecer depois é o que nos preocupa, porque aquilo que acontece já neste momento é de alguma maneira preocupante. Por exemplo, referiu que após o fim do período de transição, o governo britânico vai exigir um novo registro para atribuir as autorizações de residência. Isto é um aspecto muito importante, da maior importância, e atualmente muitos cidadãos comunitários têm procedido a esse registro e têm sido enviados fora do Reino Unido, porque são feitas um conjunto de exigências neste processo que é dito sendo, como referiu, simples, barato e proporcionado, mas só que já agora estão a ser feitas um conjunto de exigências que eu suponho que após o fim do Brexit serão ainda maiores. Portanto, aqui a questão é como é que a União Europeia vai lidar com um possível ou um eventual aumento das expulsões e deportações de cidadãos comunitários. Porque eu recordo que o Reino Unido, neste momento, é o país da União Europeia que procede ao maior número, já atualmente, de exportações, de deportações e de expulsões de cidadãos comunitários. Se este número aumentar, como é que a União Europeia vai lidar com esta questão? Depois, ouve-se aqui falar, é um pouco paradoxal, porque ouve-se falar sempre na garantia dos direitos, mas não se ouve falar na garantia da manutenção de uma das liberdades fundamentais, que é a da liberdade de circulação. Por exemplo, se haverá alguma possibilidade de haver um acordo do género, como daquele que existe também com a Suíça, em que num conjunto de 7 acordos, creio eu, eles estão todos interligados e a denúncia de um desses acordos significa a denúncia de todos os acordos. Houve recentemente um exemplo em que a liberdade de circulação foi posta em causa em virtude de um referendo e todos os outros acordos foram também postos em causa. Portanto, aqui a questão é, será que a União Europeia vai ceder no que diz respeito à liberdade de circulação? De que forma é que a União Europeia também vai lidar com outras questões que agora também já são evidentes, são visíveis, que é, por exemplo, a preferência britânica relativamente aos trabalhadores britânicos. Disse que não aceitariam seletividade. Mas e se houver essa seletividade, como é que a União Europeia vai proceder com o Reino Unido? Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Margarida Marques e Paulo Pisco. Tem agora a palavra o senhor negociador chefe.
Margarida Marques, que je suis très heureux de retrouver. Je n'ai pas oublié les discussions amicales et constructives que nous avions eues lorsqu'elle était au gouvernement, notamment dans la première phase de négociation. Elle m'a posé la même question que Mme Berardeau. Je n'ai pas répondu tout à l'heure, donc je vous prie de m'excuser sur l'Italie. Ah, mais vous avez posé la même question. Nous savons de quelle force politique est issu le gouvernement italien qui va se mettre en place dans les jours qui viennent et le Premier ministre qui vient d'être nommé par le Président de la République. Moi, je suis prêt à me rendre à Rome très vite lorsque le nouveau gouvernement sera en place pour rencontrer le président du Conseil et pour rencontrer les ministres concernés. Et je n'ai pas de raison, objectivement, quand je vois tous les sujets qui préoccupent un grand pays comme l'Italie, s'agissant des centaines de milliers d'Italiens qui vivent et travaillent au Royaume-Uni, s'agissant des entreprises, s'agissant du budget européen et des garanties que nous voulons obtenir de solder correctement les comptes pour que les programmes qui intéressent toutes les régions italiennes, notamment le Sud, soient confirmés. Quand je vois l'importance pour l'industrie italienne, petites et moyennes entreprises, du marché unique, je ne vois pas de raison qu'il y ait un désaccord ou qu'il y ait un problème sur les lignes que nous avons choisies ensemble de défendre. Encore une fois, il n'y a pas de... Dans notre attitude, il n'y a aucune revanche, il n'y a aucune punition. Nous regrettons profondément le départ des Britanniques. Nous en prenons acte et nous demandons aux Britanniques, en respectant leurs souhaits et leurs décisions, de respecter ce que nous sommes et qu'ils connaissent bien, puisque nous avons élaboré le cadre politique et réglementaire européen avec eux depuis 44 ans. Donc, je vois aucune raison. Je comprends votre question. On se pose tous des questions sur ce que seront les décisions du gouvernement italien. Nous allons attendre. Objectivement, c'est un pays qui a tout de même été l'un des 6 pays fondateurs de l'Union. Et je peux imaginer que tous les dirigeants italiens seront soucieux de respecter la place et le rôle de leur pays dans ce projet européen. Mais s'agissant du Brexit et des conditions de cette négociation, je ne vois pas de raison que le nouveau gouvernement italien ne soutienne pas des préoccupations qui sont ceux des électeurs, des citoyens, des consommateurs, des entreprises italiennes. Voilà. Néanmoins, il m'arrive quelquefois, quand on me parle de ce qui se passe dans certains pays, y compris dans le mien, de recommander, comme l'homme politique que je suis, de bien distinguer les conséquences du Brexit que nous gérons, de les distinguer des leçons du Brexit. Et de comprendre, moi je passe beaucoup de temps à comprendre, j'écoute les différents partis politiques. J'ai reçu tous les partis politiques britanniques, y compris M. Farage, qui a demandé à me voir. J'écoute, j'essaie de comprendre. Parce que, évidemment, c'est trop tard pour les Britanniques qui ont voté. Mais il y a des raisons qu'on retrouve, des leçons qu'on retrouve dans d'autres pays. Et il faut comprendre ça. Il faut respecter ça. Il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça. Ça, c'est une autre question. Ce n'est pas la négociation. Mais je crois que les dirigeants européens doivent se préparer par des réformes, par de nouvelles politiques, par de meilleures protections, par une gestion des frontières, doivent se préparer à répondre à une certaine des leçons du Brexit. Donc voilà, sur tous les sujets dont nous parlons, ce sont des sujets communautaires, Margarita. Et donc, il ne peut pas y avoir de discussion bilatérale sur ces sujets-là. Donc, puisque nous sommes liés en tant qu'Union européenne. Vous m'avez interrogé sur ce qui se passe dans le débat britannique. Évidemment, j'essaie de comprendre le débat britannique qui est très stimulant. Mais je ne veux pas me prononcer comme négociateur de l'Union sur ce qui se passe dans le débat interne au Royaume-Uni. Ce n'est pas mon rôle. Voilà. Je négocie avec le gouvernement de Theresa May. Je respecte d'ailleurs profondément la Première ministre britannique. J'écoute ce qu'elle dit. Et elle dit qu'elle quitte... qu'elle maintient toutes ces lignes rouges qui sont là, voilà, avec toutes les conséquences. Voilà. Je ne veux pas me prononcer sur les débats britanniques. Sur l'environnement, c'est un des sujets de vigilance pour nous à propos du risque de dumping. J'ai eu l'occasion l'autre jour, devant des associations environnementalistes, de dire que nous devons nous préserver des deux côtés de ce risque de dumping sur tous les sujets, y compris la question écologique. Et probablement, nous allons, dans la négociation de la future relation, demander le respect d'une, que j'appellerais, une non-regression clause, une clause de non-régression. sur ce sujet comme sur d'autres. L'impact économique au Royaume-Uni, de toute façon, le Brexit, c'est lose-lose. Hein. Il n'y a pas de gagnant. Nous devons défendre nos intérêts, notre marché unique, limiter les conséquences. Mais évidemment, il y a des conséquences. Ça ne sera pas business as usual, pour personne. C'est une décision qui a des conséquences humaines et sociales, juridiques, financières, techniques. Beaucoup ont été sous-estimés ou n'ont pas été expliqués au début. Mais on les découvre tous les jours. Hein. Et mon travail, c'est d'expliquer calmement toutes les conséquences mécaniques, automatiques, juridiques de la décision des Britanniques et de leur dire ce sont vos décisions qui provoquent ces conséquences, hein, y compris en Irlande d'ailleurs. Donc on doit assumer, ils doivent assumer ces conséquences et il y aura, effectivement, on voit bien, il y a le cours de la livre, mais il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont freinés au Royaume-Uni. Mais ça, c'est une des conséquences du Brexit. Galiléo, j'ai répondu tout à l'heure que nous souhaitons et nous voulons préparer un accord de partenariat avec le Royaume-Uni devenu pays tiers. Mais le problème, c'est que un pays tiers ne peut pas être dans le développement des programmes de Galiléo, puisque tous les pays qui participent à Galiléo respectent le même cadre juridique. Et le rôle de la Cour de justice, c'est que c'est une question de souveraineté européenne. Les Britanniques veulent retrouver leur souveraineté. Nous respectons cette volonté. Ils doivent respecter la nôtre. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune justification à l'idée que, en retrouvant leur souveraineté, ils pourraient affaiblir ou compromettre la nôtre. Ça, il n'y a aucune raison, aucune raison. Parce que je me permets d'appeler votre attention sur le fait que tout statut que nous attribuons à un pays tiers, nous devons être prêts à le donner à tous les autres pays tiers. Hein. Voilà. Donc, sur le sommet de Sibiu que le président Juncker a proposé à l'occasion de la présidence de la Roumanie, je ne suis pas personnellement impliqué dans la préparation de ce sommet. Je trouve que c'est une belle idée que les pays européens, au moment où les Britanniques sortiront, se projettent dans l'avenir. Et ça me permet de redire une chose qui a été dite par plusieurs dirigeants européens. L'avenir de l'Europe est bien plus important que le Brexit. Bien plus important. Nous regrettons le Brexit, nous regrettons que les Britanniques redeviennent solitaires et ne soient plus autour de la table pour réformer, corriger, défendre les intérêts de l'Union. C'est leur choix, mais nous avons tant de choses à faire pour tirer les leçons, comme je disais tout à l'heure, pour mieux gérer les frontières, pour continuer l'investissement. Tout à l'heure, M. Concalves évoquait les universités, investir, multiplier le plan Juncker pour investir dans l'intelligence, dans la jeunesse, dans l'éducation, dans la culture, dans la défense, pour faire une vraie politique de défense. Il y a tellement de choses à faire dans un agenda positif. Cet agenda du Brexit, il n'est pas positif. Hein, il n'est pas positif. Et donc, c'est autour de toutes ces idées-là que le Portugal doit prendre sa part à ce débat sur l'avenir de l'Union. Nous allons entreprendre des discussions avec des pays très lointains comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, aussi avec les pays d'Amérique latine, hein, dont certains sont très proches culturellement, historiquement du Portugal, un très grand pays. Mais ces pays sont intéressés, même si certains appartiennent au Commonwealth, ils sont intéressés par une coopération commerciale avec le marché unique. Et ils regrettent comme nous que ce marché unique soit amputé du marché britannique, mais le marché unique, ça restera 440 millions de consommateurs et 22 millions d'entreprises. Alors, ils ont un grand intérêt que le Royaume-Uni soit dedans ou dehors, ils ont un grand intérêt à avoir un accord commercial avec nous. Et puis, ils devront avoir, ils pourront avoir, évidemment, un autre accord bilatéral entre eux et le Royaume-Uni. Mais le marché unique, le marché britannique, voilà, séparé du nôtre. Voilà. Ça, c'est comme ça que les choses se présentent. Voilà. Sur la Cour de justice, nous avons d'ores et déjà obtenu un accord avec les Britanniques sur une question que M. Pisco a évoquée, qui est la question des citoyens. Il y a dans la partie en vert sur les citoyens, un accord sur le dispute settlement pour les citoyens. Et là, nous avons obtenu un accord avec les Britanniques difficile pour que la Cour de justice puisse être saisie de mesures de ce qu'on appelle les recours préjudiciels pendant 8 ans par les tribunaux britanniques. En particulier pour constituer, et les services juridiques nous disent que 8 ans, c'est un temps correct, une jurisprudence quand elle n'existe pas. Voilà. Nous devons trouver une place et un rôle, et nous exigerons de trouver une place et un rôle pour la Cour de justice dans la gouvernance de cet accord. C'est pour nous absolument essentiel, mais pour l'instant, nous n'avons pas réellement de discussion avec les Britanniques sur cette question qui est très difficile pour eux. Voilà, M. Pisco m'a posé la question que j'avais moi-même évoquée. Qu'est-ce qui se passe après le 1er janvier 2021? Je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Je ne connais pas la future politique d'immigration du Royaume-Uni. Je ne connais pas. Et donc, autant si nous signons cet accord, tous les droits, je précise, les droits pour la durée de la vie des citoyens. Les citoyens portugais qui sont au Royaume-Uni, résidents, ont des droits qui seront garantis pour toute leur vie et pour leur famille. Mais après le 1er janvier 2021, les citoyens portugais qui arriveront au Royaume-Uni, ou les citoyens britanniques qui viendront au Portugal, c'est une autre question dont nous discuterons avec les Britanniques dans le cadre de la future relation. Et moi, ma recommandation, c'est que nous soyons extrêmement intransigeants pour éviter toute forme de discrimination entre les 27 pays par les Britanniques et peut-être même entre les pays et les catégories de population ou de travailleurs. Voilà. Si vous avez, je dis à Paolo Pisco, le cas de citoyens européens actuellement qui auraient été expulsés, je ne parle pas d'expulsion liée à des questions judiciaires, hein, mais pour d'autres raisons, je suis intéressé de connaître ces cas, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que des citoyens soient expulsés. Hein. Dès l'instant où, jusqu'à la sortie du Royaume-Uni et à la fin de la période de transition, la liberté de circulation est garantie entre le Royaume-Uni et les autres pays européens. Et je rappelle, puisque vous avez évoqué la Suisse, M. Pisco, que la Suisse est là avec la liberté de circulation. Hein. C'est ça qui explique en particulier que « no free movement », c'est ça qui ferme la porte d'un accord comme celui que nous avons bâti depuis très longtemps avec la Suisse, qui était d'ailleurs dans un processus d'adhésion à l'Union européenne et non pas de départ. Hein. Mais « no free movement », ça veut dire que ça ferme la porte. Si les Britanniques disent « on veut pas de liberté de circulation », ça ferme la porte à plusieurs modèles, hein, notamment le modèle suisse.
Muito obrigada, Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier. Agora temos o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Negociador-Chefe Michel Barnier, antes de mais agradecer-lhe a si, à sua equipa, à sua delegação, muito especialmente também à Dra. Sofia Alves, a oportunidade que nos dão de podermos estar aqui e o facto de serem 11 da noite, hora portuguesa, bastante mais tarde para quem veio, calculo que de Paris, estarem aqui os deputados e estar aqui, acima de tudo, o negociador-chefe, demonstra a nossa vontade de podermos discutir essas matérias e isto, para mim, é um aspecto que em si mesmo é muito relevante. Nós vivemos num tempo em que percebemos que é muito fácil dar aso aos populismos, dar aso aos extremismos, dar aso aos movimentos que são muitas vezes contra a Europa, contra o livre comércio, e muitas vezes o que esses movimentos dizem é que a Europa é opaca, a Europa é transparente, que, por exemplo, quando a União Europeia negocia acordos comerciais, não há uma ligação com as pessoas, não há uma ligação com os representantes das pessoas, e eu acho que a sua vinda aqui hoje, penso que é o 13º Parlamento, incluindo o Parlamento Europeu, onde teve a oportunidade de falar, demonstra exatamente o contrário. Demonstra que é possível fazer uma negociação, que é uma negociação de um acordo comercial, de um acordo político, que certamente tem sempre um grau de reserva. Quando estamos a fazer uma negociação é sempre importante manter aqui algum grau de reserva, mas ao mesmo tempo fazê-la de forma transparente, dando conhecimento, dando informação aos representantes dos portugueses, que neste caso são os deputados, tal como deu informação a muitos representantes de outros povos ao longo da União Europeia. E eu acho que é importante também destacar essa diferença efetiva que nós temos, que aliás já tivemos na negociação de outros acordos recentemente, lembro-me da negociação do CETA, do acordo entre a União Europeia e o Japão, as próprias negociações do TTIP que não foram concluídas, mas que demonstraram que é possível, de facto, nesse sentido, combater muitos dos populismos, dos extremismos, dos movimentos que são contra a União Europeia, contra o livre comércio, e que temos de fazê-lo de uma forma também que destaque os exemplos positivos, e eu acho que vir aqui é, de facto, um exemplo muito positivo. Quero lhe dizer que o Parlamento Português tem deu um enorme destaque a este dossiê. Eu estive a fazer uma contabilização rápida e percebi que nós, no Parlamento Português, já fizemos mais de 10 reuniões e audições, sempre muito focados em fiscalizarmos a participação do Governo Português neste processo, e essa é uma competência dos Parlamentos, em, nesse sentido, também acompanharmos com os representantes da União Europeia, da Comissão Europeia e à cabeça também com o negociador-chefe, o que a Comissão Europeia está a fazer nesta matéria, e também, sempre que possível, ouvindo os representantes do Reino Unido. Penso que já ouvimos aqui 3 ou 4 vezes a senhora embaixadora do Reino Unido em Portugal para também nos dar uma nota sobre esta matéria. E este ponto, para mim, é um ponto muito importante, porque é o ponto da legitimidade democrática ao qual um Parlamento não pode fugir. Mas também lhe quero dizer que, nesse sentido, fiquei muito tocado com uma frase que disse agora mesmo. Disse agora mesmo que o futuro da Europa é mais importante até que o futuro do Brexit, do que vier a acontecer do Brexit. Não podia estar mais de acordo consigo. Mas a verdade é que o futuro da Europa também vai ser o que nós conseguimos fazer com esta negociação do Brexit. É um teste muito duro. Nós nunca tivemos uma operação do ponto de vista político, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, tão desafiante, tão grande como esta no processo de construção da União Europeia. E eu acho que o que tem vindo a acontecer recentemente são passos num bom sentido. Eu acho que se afastou um bocadinho, nomeadamente quando foi concluída a primeira fase das negociações, se afastou um cenário chamado hard Brexit. Eu acho que isso é positivo. A nossa negociação do Brexit tem de ter um limite, que é o de garantir que este acordo não favorece de alguma forma um risco moral, um moral hazard para países que queiram sair. Percebo muito bem este limite, mas ao mesmo tempo esta negociação não pode ser uma revanche, não pode ser uma vingança por o povo britânico, legitimamente num referendo, ter querido sair. E eu acho que o melhor símbolo de que a União Europeia conseguiu encontrar aqui um ponto de equilíbrio foi uma coisa que já destacou, que foi o respeito integral pelos acordos da Sexta-feira Santa, foi o respeito integral por não levantar uma fronteira num sítio onde foi a paz e a fronteira que derrubou, onde foi a paz e a concórdia que derrubou essa mesma fronteira. Acho que, do ponto de vista efetivo, mas acima de tudo do ponto de vista simbólico, o respeito integral pelos acordos de Sexta-feira Santa, dos acordos da Good Friday, foram muito relevantes, e penso que isso deve também muito a si, e queria felicitá-lo também por isso mesmo. Não queria, contudo, deixar de lhe colocar 3 ou 4 questões que nos parecem muito relevantes, e vou tentar não repetir matérias que já foram aqui abordadas. Mas há uma matéria sobre a qual eu gostava de questionar, que tem muito a ver com o nosso acordo futuro e o que é que nós podemos esperar na relação entre a União Europeia e o Reino Unido na matéria da segurança e na matéria da defesa. Estas matérias hoje são matérias muito relevantes no quadro da União Europeia, no quadro no próximo quadro financeiro plurianual, são matérias que vão ter um destaque que não tiveram no passado, e eu gostava de perceber quais é que são as perspectivas que podemos olhar do ponto de vista da União Europeia e do Reino Unido para um futuro acordo no domínio de defesa. Também do ponto de vista da cooperação dos serviços de intelligence, o que é que nós podemos esperar? Eu li com alguma preocupação um relatório da Câmara dos de dezembro da Câmara dos Lordes, em que a Câmara dos Lordes levantava, identificava uma possível barreira à própria segurança e à troca de informações que o Brexit podia levantar, que o processo pós-Brexit podia levantar, mas também nesse sentido, se a Comissão entende que é preciso nós termos um quadro regulatório equivalente dos dois lados do canal nas matérias que têm a ver com a segurança e com a defesa. Depois também, ainda no plano geoestratégico, o meu partido tem falado muito com preocupação de uma omissão que se tem verificado, que é, de alguma forma, a diminuição da dimensão atlântica da União Europeia. Perceba que um país como Portugal e um Parlamento como o Parlamento Português olhe muito para a dimensão atlântica da União Europeia. Nós somos um dos grandes países da dimensão atlântica, estamos numa periferia da Europa quando olhamos para o mapa de uma certa forma, mas numa centralidade quando olhamos para a dimensão atlântica da União Europeia. Certamente que a saída do Reino Unido afeta essa mesma dimensão atlântica, e nós temos visto com alguma preocupação que tem faltado algum diálogo sobre esta matéria, ou pelo menos colocar o reforço da dimensão atlântica como estratégico, e portanto gostava de ouvir também sobre essa matéria. Depois, uma terceira pergunta tem a ver já mais com o quadro económico, quer quanto ao período transitório, quer quanto após ao período transitório, mas o que é expectável, que respeito é que efetivamente vamos ter pelo chamado level playing field, de regras que são regras que vão desde o domínio fiscal ao domínio social, ao domínio do dumping ambiental, ao domínio da concorrência e dos auxílios de Estado. Há quem diga no lado lá do canal que páginas tantas podemos ter logo a seguir ao espaço continental uma Singapura às portas da Europa. O que é expectável relativamente a essa matéria? E também, ainda nesta dimensão mais comercial também, como é que encara questões que têm surgido neste momento em cima da mesa, como na negociação do quadro financeiro plurianual, a possibilidade do Reino Unido continuar a participar em programas como, por exemplo, o Horizonte 2020, ou mesmo a PAC, porque já surgiram vozes dizendo que o Reino Unido devia continuar a participar, pelo menos, nestes dois programas. Depois, uma última questão que tem a ver com o seguinte, e isto também tem a ver muito, com muitos portugueses que estão neste momento no Reino Unido, cerca de 300 mil. Nós sabemos que, inicialmente, para estes portugueses, esses poderem continuar lá, lhes foi pedido o preenchimento de um formulário que tinha 85 páginas. Foi uma coisa que levantou muita indignação, pelo menos aqui em Portugal. Neste momento, a ideia era substituir isso, de acordo com o que foi anunciado pelo ministro Brandon Lewis, substituir isto por um procedimento online com 6 a 8 perguntas. Pergunto-lhe se já está em vigor e que avaliação é que a Comissão faz sobre esta matéria. E uma última pergunta que não lhe resisto a fazer, sei que não se vai pronunciar e bem sobre matérias que sejam matérias internas do Reino Unido. Não lhe vou perguntar sobre as opiniões que têm vindo a ser expressas sobre Tony Blair, pessoas como Tony Blair ou como David Miliband. Não lhe pergunto sobre isso, mas pergunto sobre uma coisa que tem a ver exatamente com a ratificação. Nós sabemos que é um processo exigente de ratificação do acordo em si mesmo, do ponto de vista da União Europeia, do Parlamento da União Europeia, dos Parlamentos Nacionais. É um processo de ratificação que terá o seu tempo, e há pouco naquele quadro mostrava-nos exatamente uma parte reservada para isso. Mas o que é expectável também do processo de ratificação do lado do Reino Unido? É expectável que a ratificação do acordo em si mesmo vá ao Parlamento e que também aí possa surgir uma barreira da chave de extração? Estão, sei que entra um bocadinho no domínio interno do Reino Unido, mas se nos quiser falar sobre essa matéria, para nós era muito útil. Muito obrigado.
Très bien. Mais moi, je suis bien avec vous, hein. Je peux rester toute la nuit si vous voulez, je ne sais pas. Monsieur Mota Soares, merci beaucoup de votre intervention, comme aux autres députés. Juste un mot, vous avez dit transparence, et évidemment, c'est une négociation extraordinaire, unique. Et je pense qu'elle exige des méthodes et un état d'esprit aussi nouveau et différent. Et c'est pour ça que j'étais très heureux que le président Juncker et le président Tusk appuient, comme les États membres et le Parlement, cette idée de pratiquer la plus grande transparence. Jamais dans l'histoire d'une négociation, on avait ainsi procédé à la publication immédiate de tous les documents de négociation. Dès que la Commission s'est prononcée, ils sont mis sur le site Internet. Voilà, donc nous avons, je pense, bien fait ainsi. Et c'est aussi un outil de transparence utile pour vous et pour vos électeurs. Je pense aussi, comme vous, M. Suarez, que cette négociation, elle ne doit pas être utilisée pour donner des leçons à personne, mais simplement, elle doit être utilisée pour expliquer objectivement, pratiquement, ce que ça veut dire d'être dans l'Union et ce que ça veut dire d'être dehors dans l'Union, en dehors de l'Union. Hein. Et je vais continuer chaque semaine, dans les interventions publiques que je suis amené à faire, à expliquer la différence. Qu'est-ce qu'on a quand on est membre de l'Union et qu'est-ce qu'on perd quand on quitte l'Union ? Évidemment, on perd. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous voulons rester ensemble et nous allons expliquer cela. Mais nous sommes, depuis notamment le mois de mars, je pense objectivement sur le chemin, même si c'est un chemin difficile, d'un accord avec les Britanniques. Et je le souhaite personnellement pour ensuite, ayant réglé la question du divorce et de la séparation ordonnée, sur cette base, en confiance, et c'est un mot important, la confiance, dans une négociation aussi, bâtir la future relation. Alors sur la future relation, je télégraphiquement... vous avez évoqué la sécurité et la défense, je n'y reviens pas. Si vous pouvez, sur la slide de l'avenir, regarder les deux points centraux que nous avons mis à cheval, c'est le level playing field sur les piliers économiques, et un autre point que vous avez cité, M. Suarez, qui est la question de l'accord que nous devons trouver avec les Britanniques sur les échanges d'informations. Ça, c'est une condition pour pouvoir travailler sur une bonne base de confiance avec les Britanniques en matière de sécurité intérieure et de sécurité extérieure. Nous avons, je pense, très vite à devoir travailler avec les Britanniques sur cet accord en matière d'échange d'informations, comme il est extrêmement important que nous puissions, dans le cadre... c'est la dernière ligne en bleu, utiliser les outils à notre disposition sur ce qu'on appelle les adequacy decisions en matière de data, de données personnelles. Hein. Toutes ces questions liées à sécurité intérieure et extérieure, notamment intérieure, exigent aussi des règles en matière de protection des données. Voilà. Et donc nous serons prêts à utiliser ces décisions unilatérales que nous prendrons nous-mêmes, comme nous le ferons dans un tout autre domaine, mais c'est la même ligne sur les services financiers, pour créer des décisions d'équivalence ou d'adéquation. En tout cas, c'est une de mes priorités que de commencer la discussion avec les Britanniques sur cet accord d'échange d'informations. Vous me parlez de la dimension atlantique ou transatlantique. Il y a beaucoup de pays européens qui ont une façade atlantique, en tout cas plusieurs d'entre eux, le vôtre, et vous êtes même le plus près, vous, des Amériques, enfin encore que la France n'est pas très loin quand on regarde ces départements d'outre-mer dans les Caraïbes ou en Guyane. Mais moi, j'ai pas oublié la visite que j'ai faite aux Açores quand j'étais commissaire à la politique régionale. Hein. Simplement pour bâtir une dimension atlantique ou transatlantique, il faut être deux. Hein. L'Union européenne et les États-Unis. L'Union européenne ou l'Amérique latine ou l'Amérique centrale. Hein. Donc voilà. Nous sommes préoccupés des discours et de l'attitude de notre allié américain. Et donc nous souhaitons que, s'agissant notamment des négociations commerciales, cet esprit d'alliance joue dans tous les domaines. Mais je pense pouvoir dire que l'Union européenne restera disponible et motivée pour consolider, malgré la conjoncture difficile du moment, cette relation transatlantique, en particulier avec les États-Unis d'Amérique, puisque nous travaillons ensemble dans l'Alliance Atlantique. Sur la transition, Monsieur Suarez, l'ensemble du corpus juridique, supervision, certification sera maintenu. L'intégralité, c'est ça qui est accepté par les Britanniques. Et c'était pour nous une condition majeure. On nous demande, ils nous demandent une transition. Ils nous demandent à pouvoir maintenir le statu quo économique pour pouvoir avoir le temps de se préparer. Leur administration, leurs entreprises, les douanes, très bien. C'est aussi utile pour nous et ensemble pour avoir le temps de la négociation. Mais c'est très utile pour eux et même vital, cette transition. Ils ont donc dû accepter les conditions que nous avons posées. Et pendant cette période, ils bénéficieront des politiques, mais ils contribueront aux politiques et ils devront respecter l'intégralité de l'architecture de supervision et de régulation, y compris le point que vous avez évoqué des aides d'État et de la concurrence. Après, c'est une autre question, et ça touche à la future relation et aux outils du level playing field que nous pourrons trouver. Vous dites, est-ce qu'ils pourront participer au programme ? Nous aurons à utiliser l'avant-dernière ligne en bleu nuit, la bleu océan Atlantique, sur les outils de coopération avec les pays tiers. Et nous les utiliserons tous, comme nous le ferons avec la Suisse ou avec la Norvège. Vous dites la PAC ? Non, la PAC, non. Si. Vous savez, quelquefois, je dis ça en souriant, et puis je m'arrêterai là. Quand je lis certains papiers britanniques, notamment sur la sécurité intérieure ou sur la politique étrangère, on a le sentiment d'avoir affaire à un pays qui engage un processus d'adhésion à l'Union européenne. Et qu'ils veulent rester partout, là où ils sont déjà. On se demande... Mais malheureusement, leur décision de quitter l'Union a des conséquences mécaniques. Ils ne peuvent plus être autour de la table du Conseil des ministres, ni au Parlement européen. Voilà. Donc, pour les citoyens, M. Suarez, le formulaire de 60 ou 80 pages, c'est fini. Les Britanniques nous ont promis, et je n'ai pas de raison de ne pas les croire, mais nous serons vigilants, des procédures simplifiées. Et le secrétaire d'État, le nouveau secrétaire d'État Home Affairs, est venu au Parlement européen, il a répondu aux questions, et ces dispositions de simplicité, non-consly, simple, simplified, proportionnée, sont inscrites dans le texte du traité, agréées, en vert. Donc nous vérifierons. Voilà. Pour la ratification... Je vous ferai la même réponse que tout à l'heure. Je ne vais pas me prononcer sur le débat intérieur britannique. Normalement, c'est le Parlement britannique qui doit ratifier. Il y aura des votes importants dès le mois d'octobre, puisque c'est au mois d'octobre que nous devons terminer le traité et le soumettre au processus de ratification des deux côtés. Moi, j'ai essayé, comme j'en ai reçu le mandat, de co-construire ce traité de withdrawal avec le Parlement européen, avec les États membres. Il n'y aura pas de surprise, puisque nous rencontrons les États membres 1 à 2 jours par semaine, et moi je rencontre le Parlement européen, le Brexit Steering Group, 1 fois par semaine. Encore ce matin. Oui. Donc nous avons une co-construction de l'accord de retrait du côté européen. Il n'y a pas de surprise, Nous travaillons ensemble dans un climat de transparence, encore une fois, inédit. Voilà. Eh bien, j'espère, à une heure un peu moins tardive la prochaine fois, revenir devant votre Parlement. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été patient. Oui, je prendrai des précautions la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup, Sr. Michel Barnier, por esta sessão tardia, mas muito produtiva. O senhor tem uma tarefa única para uma negociação muito, muito peculiar. Todos os êxitos possíveis para a conclusão desta tarefa, que é uma tarefa complicada e que não vai trazer vantagens nem para a União Europeia, nem para o Reino Unido.
J'ai tout compris.
J'imagine.
À bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup. C'est possible.